Dans Matthieu au chapitre 10, donc on commence le chapitre 10. On va lire les quatre premiers versets, voir, c'est passionnant, c'est de la haute littérature. Mais j'ai vendu le punch ce matin, vous savez de quoi qu'on va parler. Mais on va le lire parce que c'est quand même c'est le sujet des deux prochains messages. Alors, on peut lire dans Matthieu 10, les versets 1 à 4, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. » C'est la compagnie apostolique, c'est la compagnie des apôtres, les joyeux compagnons, ok? C'est ça l'idée qu'on appelle les apôtres. Et donc, comme je le disais ce matin, on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis que, moi en tout cas, depuis que je prêche, puis évidemment depuis que je prêche à l'église. Considérer les apôtres, un par un. Comme je disais, il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus. Bon, il y en a d'autres, là. Moi, j'ai celle-là, là. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui... Mais quand même, je pense, en tout cas, moi, je l'ai lu, là. Il y a même des marques dedans, là, mais je l'ai lu, ça fait un bout de temps. C'est quand même bon, ça, tu sais, ça nous fait des fois juste s'arrêter systématiquement à considérer chacun des apôtres. C'est sûr qu'il y en a qu'on ne sait pas grand-chose. Hein. Il y en a qu'on ne sait pratiquement rien dessus, à part leur nom, quasiment. Mais là, on sait pas mal plus, il y a des leçons à tirer là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va les considérer un par un. Mais avant, je voudrais répondre à certaines questions par rapport aux fameux apôtres. D'abord, c'est quoi un apôtre? Savez-vous c'est quoi un apôtre? Savez-vous même que ça veut dire apôtre? Ça veut dire quoi apôtre? Envoyé. OK? C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que, juste pour clarifier, il y a des gens, bon, il y a des gens qui sont... Là, il y a de l'hérésie, puis il y a des gens qu'on peut comprendre, OK? Des gens qui vont dire que, maintenant, il y a un apôtre, là, un tel, là, qui dit qu'il est un apôtre dans le sens apostolique, là, puis qu'il y a une autorité apostolique, ça, c'est fini le temps des apôtres, OK? Donc, ça serait de la fausse doctrine. Mais il y a des gens qui vont, par exemple, appeler leurs missionnaires des apôtres. Bon, techniquement, c'est vrai, c'est des envoyés. Ils sont pas hérétiques. C'est juste que, bon, moi, je pense pas qu'ils prennent un nom. Finalement, ça porte à confusion. Okay? Parce que nous, quand on pense à apôtres, on pense aux 12, puis OK, bon. Donc, ici, c'est spécial parce que dans notre passage, ils sont d'abord appelés disciples, puis ensuite apôtres. Donc, un apôtre, c'est un simple disciple, mais il y a quelque chose de plus. C'est les 12 spécifiquement qui ont été avec Jésus, qui ont été choisis par Jésus lui-même pour le suivre pendant 3 ans dans son ministère terrestre. Et ça, c'est vraiment le sens restreint d'apôtre, là. Les 12, OK? Les 12 envoyés par Jésus. Il y avait d'autres disciples, il y avait 70, mais les 12 étaient spécifiques, OK? Il était appelé directement par Jésus avec le but, la mission d'aller pour répandre sa parole, l'évangile du royaume. Okay? On voit ça dans les évangiles. Puis c'est là qu'on est rendu dans Matthieu 10. Jésus a parlé, il a fait des miracles et tout ça. Puis là, ça les nomme, puis après ça, il va leur donner leur mission. On va voir ça dans les messages suivants. Et ces apôtres-là aussi avaient la particularité que leur prédication... Okay, donc, la parole qui annonçait l'évangile du royaume était appuyée par des signes et des miracles. Okay? Ça aussi, c'était particulier des apôtres. Okay? Ça nous dit dans Hébreux chapitre 2 que ils faisaient différents miracles, des prodiges pour montrer que ce n'était pas des charlatans. Il y avait le sceau de l'approbation de Dieu parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore toutes les Écritures. Donc, c'était nouveau. C'était pour montrer, oui, c'est bien mes envoyés. C'est bien moi qui les envoie, c'est mes apôtres. OK? Maintenant, comment sont devenus apôtres? Une autre question qu'on peut se poser ce soir. Un appel direct et spécifique de Jésus-Christ. Okay? On a un exemple qu'on a vu il y a quelques semaines. Moi, je n'ai même pas besoin de tourner dans ma Bible. Dans Matthieu 9:9, ça nous dit simplement ici, « De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages. Il s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivi. Pas plus compliqué ça. Puis là, bon, ils mangent ensemble avec d'autres publicains. Et notez qu'ici, comme aussi, bon, c'est pas le seul appel qui est répertorié dans la parole, OK? Les fils de Zébédée qui étaient en train de réparer leurs filets, puis les appels, puis ils laissent les filets, bon. Il y en a d'autres appels des apôtres qui sont dans la parole, mais ils ont tous en commun immédiatement. Ils laissent tout, puis ils suivent. C'est quand même quelque chose, ça. Parce que c'était tous des gens, lui, il était en plein dans sa job, les fils de Zébédée, puis Pierre aussi, ils étaient à travailler, ils ont tout laissé pour le suivre. Et donc, c'était des disciples de Jésus-Christ qui croyaient qu'il était le Messie, qui croyaient qu'il était celui qui devait venir, mais en plus, en tant qu'apôtre, il y avait cette spécificité d'avoir suivi Jésus pendant tout son ministère, depuis Jean-Baptiste, OK? Ah, grosso modo, là, ça va dire la journée même, parce que Matthieu, c'est un petit peu plus tard, mais tu sais, c'est au tout début de son ministère. Donc, depuis, grosso modo, Jean-Baptiste jusqu'à son ascension. Les 12, tous, on sait, excepté un, qui l'a pas renié, mais qui l'a livré, Judas. OK? Et donc, selon Acte 1, là, il disait qu'il fallait qu'il aille accompagner le Seigneur durant son ministère public, il fallait qu'il ait aussi qu'il ait été témoin de sa résurrection. OK? Maintenant, juste pour vous parler un peu plus d'eux autres, à s'introduire avant de les regarder un par un. Ces gens-là, c'était pas des gens où est-ce qu'on dirait « wow », c'était des gens exceptionnels, puis tout ça, c'était des grands intellectuels ou des leaders politiques, non. C'était des gens bien ordinaires. Et même, beaucoup, justement, n'étaient même pas au contraire des intellectuels. Peut-être à l'exception, là. Vous savez que Judas se distingue aussi, c'était le seul qui venait pas de la Galilée. Puis c'était peut-être celui qui était un peu plus de la société plus élevée. Puis les autres, tous des Galiléens, des gens communs, tout ça. Judas venait de la Judée qui était plus aisée, plus. Et donc, tu sais, puis c'était lui aussi le standing, l'amour de l'argent, puis tout ça. En étudiant ça, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. On voit que Judas était différent, pas juste. En tout cas, il venait d'une région différente aussi. Mais ce que j'aimerais qu'on remarque, les disciples, OK, c'était pas ce que les gens vont dire, comme on dit, on voit dans Corinthiens, les gens auraient pu dire, c'est des choses que les gens méprisent, c'était pas des grands intellectuels, c'était pas des nobles, c'était pas des gens hauts en société, mais ils étaient disponibles, flexibles, enseignables et fiables. Et ça, c'est le matériel de base que Dieu utilise pour bâtir son royaume. Ça, c'est quelque chose. C'est des qualités spirituelles, des traits de caractère avec lesquels Dieu construit. Je le répète, disponible, flexible, justement, Jésus dit, venez, puis là, OK, on y va. Puis, tu sais, il était pas mal, il avait un horaire, c'était pas évident, là, je veux dire, il s'en allait un peu partout, puis ça. Flexible, enseignable, bon, OK, on voit tous leurs défauts, puis tout ça, mais, hey, ils ont été enseignants, puis on les voit avancer, rendus dans le livre des Actes, wow, là, tu sais, ils avaient appris énormément. Et ils étaient fiables. Dieu leur avait confié la mission d'évangéliser le monde, et malgré eux et tout ça, ils l'ont accompli. Donc, pas parce qu'il y avait beaucoup de capacités intellectuelles, sauf qu'on dit peut-être Judas, qui avait peut-être même eu plus d'éducation de par la région dans laquelle il était. Mais il y avait ce que ça prenait pour que Dieu puisse les utiliser. Comme Bob Jones, je pense que c'est Seigneur qui a dit « The greatest ability is availability ». La plus grande habileté, c'est la disponibilité. Il était juste disponible pour être utilisé par Dieu, puis c'est Dieu les a utilisés. Maintenant, ils étaient tous Galiléens, sauf un, je vous l'ai dit. Et les Galiléens étaient facilement reconnus. Un Galiléen ouvrait la bouche, puis les gens savaient qu'il venait de la Galilée. OK? Tu sais, nous, on dit, là, quelqu'un qui sontait, puis d'affaires de même, tu sais, il parlait avec des expressions un peu, tu sais, typique, puis les gens disent « Ah, ça, c'est un Galiléen. » Tu sais, peut-être même l'accent aussi les faisait reconnaître, mais, OK. Puis même, bon, pendant que Jésus s'est fait livrer par Simon-Pierre, on dit « Ah, oh, on te reconnaît, t'es Galiléen. » Tu sais, juste c'est comment qu'ils parlaient, ils ont reconnu, OK. Puis aussi, même, puis c'était pas des gens qui avaient une bonne réputation parmi les Juifs. Le nom galiléen était utilisé comme un terme de mépris puis de reproche. Ah, oh, une espèce de galiléen. Tu sais, c'était pas. Les gens étaient venus, c'était les plus bas, tu sais, c'était les plus méprisés de... C'était pas comme les Samaritains, mais dans les Juifs, qui étaient vraiment Juifs, mettons qu'ils étaient au bas de la considération sociale, les Galiléens. C'est quand même spécial que Jésus a tout choisi des Galiléens. Pensez-vous que c'est un hasard? Non, il a choisi, il a désigné, OK? Parce que Dieu aime apprendre des choses méprisées, des choses folles du monde, pour confondre les sages. Puis en passant, tu sais, quand les pharisiens ont dit, « Ah, oh, regarde, puis il n'est pas sorti de prophète de Galilée, c'était pas vrai. » Jonas venait de la Galilée. Puis Jésus venait même pas de la Galilée, il était né à Bethléem, comme la prophétie le disait, fils de David, il est né dans la ville de David. Il n'avait pas étudié leur écriture comme il faut. Mais il n'avait peut-être pas eu leur bonne information non plus. Peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il était né à Bethléem parce qu'il a grandi en Galilée. Donc, Jésus venait de là, de la Galilée. De cet endroit où est-ce que je vous disais qu'il est, non seulement il était méprisé, mais aussi il était connu pour être inculte. Il ne connaissait pas les lettres, hein, la langue. C'était pas des gens qui étaient connus pour ça. C'est ça, il était connu pour faire des... Quand il parlait de faire des erreurs... grammatical, tu sais, puis il prononçait mal, tu sais, à un moment donné, même on voit ça, là, je sais pas c'est dans quelle région, mais c'est dans un livre des rois, là, où est-ce qu'il dit tel mot, puis là, quand il dit, il reconnaît, ah, tu viens, hein?
Chibolette.
Ah, c'est ça, il dit Chibolette, mais c'est un peu un affaire dans la main, tu sais, il était reconnu, donc, mettons qu'il disait Chibolette, il disait tout croche, puis ah, ben oui, tu viens de la Galilée, tu sais, je dis pas que c'est les gens de la Galilée qui disaient ça, là, mais bon. Un bon livre à ce sujet-là, si vous avez, ça s'appelle « Évangéliser selon le maître » par Robert Coleman. En anglais, c'est « Master Plan of Evangelism ». C'est très bon parce que ça décortique comment, c'est quoi la méthode de Jésus. Je vous fais juste vous lire la table des matières, là, juste pour vous amener le... C'est un livre français, c'est en anglais, ça. Sélection... association, consécration, don de soi, démonstration, délégation, contrôle, reproduction. Dans le fond, il regarde systématiquement qu'est-ce que tu sais, il les a sélectionnés, hein, il les a appelés, il a dit bon toi suis-moi. Il s'est associé à eux, bon, il les a consacrés à l'œuvre. Jésus s'est donné lui-même pour eux autres. Il leur a démontré, il faisait pas juste leur dire des discours, il leur montrait aussi ce qu'il voulait qu'ils fassent. Il les a envoyés en délégation, il leur a délégué la tâche d'aller. Ça vient dans le chapitre 10. On va voir ça. Contrôle. Ça, c'est important. Jésus les gardait sous son contrôle. On sait souvent, il pensait un peu de tout croire. Jésus les ramenait constamment sous son contrôle, puis ensuite de reproduction. Jésus est parti, puis ils ont continué à faire le même pattern que lui faisait. C'est intéressant pour ça. Moi, je l'ai lu, ça fait quand même assez longtemps. Lui aussi, même lui, il est quasiment barbouillé, là, mais bon. Puis c'est plate parce qu'on a un livre de même aussi à la maison. Il est en multi-partie, mais bon. Je pense qu'avec de la colle chaude, ça... En tout cas. Mais si vous voulez emprunter un de ces livres-là, pas de problème, juste mettez-le sur la liste qui est là-bas. Dans la section sélection ici, de ce livre-là, il cite... Il n'y a aucune preuve de hâte dans la sélection de ses disciples, juste de la détermination. Ce qui est révélateur à propos de ces hommes, c'est qu'au début, ils ne nous impressionnent pas comme étant des hommes clés. Tu n'es pas là, puis waouh, ça c'est bien l'homme que ça prend. Qu'est-ce que Dieu va faire avec quelqu'un de même plutôt? Et justement, c'est ça le point. Il a sélectionné, il a fait exprès pour sélectionner des gens. Où est-ce que Dieu, comme on a vu, des vases de terre, où est-ce que la puissance allait être attribuée non aux vases de terre, mais à Dieu? Juste une couple d'autres choses par rapport à ça. C'était pas des leaders qui, mettons, dans une synagogue ou tout ça, là, comme Jairus, mettons. Il n'a pas pris des hommes de même. Il n'était pas dans le sacerdoce lévitique. Même souvent, c'était des gens qui étaient méprisés. Matthieu le publicain, Simon le zélote, c'était pas... C'était des fanatiques pas mal, eux autres, ils voulaient se débarrasser de Rome par la force, là, un peu comme le FLQ. C'est comme si Jésus avait pris quelqu'un du FLQ. C'était pas mal ça, là. Ça vous donne un peu l'idée, là. Ouais, c'est littéralement ça. Tu l'avais pas entendu, celle-là, hein? OK, ouais, Front de libération du Québec. Ouais, ton père t'expliquera ça après. Leçon d'histoire du Québec. Quand tu penses au pont Pierre-Laporte, tu penseras à ça. Quand on pense au pont Pierre-Laporte, on peut penser au FLQ. C'est le nom du gars qui s'est fait tuer par un des gars, un ministre. Peut-être qu'il y en a qui ont dit, bon, c'était des Galiléens, mais c'était, ça ne veut pas dire que c'était des pauvres, ça. Comme les fils de Zébédée, peut-être qu'eux autres avaient plus. Tu sais, d'après ce qu'on comprend, peut-être que la business familiale roulait bien, puis tout ça, mais c'était quand même des gens, tu sais, c'était pas des gens éduqués de la haute classe. Peut-être que leur compagnie marchait bien, parce qu'ils étaient associés avec Simon, puis tout ça. Fait que peut-être que même, leur famille était un peu plus à l'aise, mais c'était pas des gens nécessairement. Tu sais, ils n'étaient pas dans les arts et lettres et la philosophie, tu sais. C'est ça que je veux dire. Puis, comme Jésus, d'ailleurs. Jésus n'avait pas d'éducation formelle. Pour ça, il était, hein, il n'a pas étudié. Comment ça qu'il connaît les Écritures de même? Ben, Jésus s'est associé à du monde pareil. Il connaissait, par exemple, des métiers. Jésus était charpentier. J'ai nommé Simon, les deux fils de Bédé, c'était des hommes de pêche. Il y avait Publicain, il y avait Matthieu. Bon, les autres, on ne sait pas nécessairement tout leur emploi, mais bon. Certainement, il était pas considéré comme une gang de gars impressionnants. OK? Pour ça que ça dit ici 12 hommes ordinaires. C'est ça l'idée, c'est que c'était des gens bien ordinaires. OK? Puis ils ont confondu les masses. Et ça, moi, ça me réconforte. Dieu utilise du monde de même. On n'a pas besoin d'être quelqu'un, puis tout ça. Faut que Dieu soit. Si on est trop quelqu'un, on va être dans le chemin. On a vu ça un peu ce matin. Hein? Si on est dans le chemin, Dieu ne va pas nous utiliser. Dieu utilise des gens qui sont pas dans le chemin. On en a fait des saints. Bon, là, je dis on, là, mais tu sais, dans le sens, des fois, on est dans des cathédrales, mais c'était juste des gens ordinaires. Puis, tu sais, bon, Dieu, tu sais, puis on les regarde dans le livre des Actes, waouh, tu sais, on fait des choses extraordinaires. Mais c'était des gens bien ordinaires, de la même nature que nous, des gens bien communs, qui étaient simplement disponibles, flexibles, enseignables et fiables. Il y avait bien des défauts et des faiblesses, et je pense que c'est par exprès dans les évangiles qu'on les voit. C'était pour nous montrer que, regardez, c'était pas des gens parfaits, c'était des gens, on voit leur orgueil, on voit leur incrédulité, on voit, hein, Jésus combien de fois qu'il leur a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi, puis tout ça. C'est tout pour nous montrer que c'est des gens de personnes que Dieu choisit pour son œuvre. Okay? Dieu les avait désignés, c'était pas une erreur, c'était pas oh, hein, lui, on est comme pogné avec, il y a de la misère. Non, ils étaient tous de même, systématiquement. Okay? Et ça mène à ce point important. Jésus voyait pas simplement, tu sais, même on le voit ça dans l'appel de Pierre. Il dit Simon. On va voir c'est la signification de son nom, je le lis ici, là, de Simon. Pierre, ça veut dire roche, mais Simon, ça veut dire entendre. Il dit, tu es Simon, mais on va t'appeler Pierre. Dieu ne voyait pas ce qui était là maintenant, il voyait ce qu'il allait devenir, que par sa grâce, que Dieu allait faire avec eux autres. C'est ça qui est merveilleux. On voit les apôtres, on peut dire, ouais, c'est une bande de gars pas éduqués, puis tu sais, pas impressionnants, mais Dieu voyait ce que lui était capable de faire à travers des gens comme ça, disponibles, flexibles, enseignables et fiables. Et c'est ça vraiment ici. Qu'on doit retenir. Et mes amis, c'est ça aussi pour nous autres. Dieu ne veut pas qu'on regarde à nous ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, ce qu'on a été, mais ce qu'il veut faire avec nous autres. Puis Dieu n'a pas besoin qu'on soit quelqu'un. En fait, Dieu veut être quelqu'un, lui, dans notre vie, pas que nous, on soit quelqu'un. Il y a une méchante grande leçon là-dedans, un grand principe spirituel qu'on apprend déjà en partant dans la vie des apôtres. Ou pour le dire autrement, nous devrions voir les gens autour de nous autres, les gens sous notre influence, tout ça, dans le processus de ce que le Seigneur est en train de les faire devenir au lieu de juste s'arrêter à ce qu'ils sont maintenant. On est tous des œuvres inachevées. Dieu est tout en train de faire de quoi? Quand on est un enfant de Dieu, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Une dernière chose en introduction là-dessus. Pourquoi Jésus a choisi des Galiléens comme ça, ceux qui étaient tant maîtrisé et tout ça. Bon, on a dit parce qu'il voulait aussi montrer ça, mais lui-même est un Galiléen. OK? Bon, on dit, ah, il est né à Bethléem, mais tu sais, il a grandi là. Fait qu'il connaissait leur culture, leur mentalité, puis il y avait une affinité. OK? Mais du côté, il disait ça des fois. Pour moi, il devait avoir des bons temps, qu'il riait des fois. On dit, ah, oh, ils sont sérieux, puis tout ça. Ah, non, tu sais, puis il y avait peut-être des des jokes, tu sais, de Galiléens qui se comptaient ensemble, qui trouvaient donc drôle, les autres trouvaient ça nono, puis peut-être qu'ils étaient corny, mais eux autres, ils trouvaient ça drôle autour du feu le soir, ils se comptaient des jokes de Galiléens, tu sais, puis comprenez-vous, il y avait cette affinité-là, OK? Je pense qu'il y avait une unité spéciale à cause de ça. Évidemment, on sait que l'unité vient spécialement du Saint-Esprit, mais au niveau humain ici, Jésus prenait des gens là où il était rendu, puis je pense que ça faisait une différence. Le seul qui était différent, c'est Judas, qui venait d'une autre région, et Jésus ne l'a pas pris... Tu sais, Jésus savait qu'il était celui qui allait le trahir, parce qu'il dit, tous, tu sais, quand... Hein? Vous êtes saints, sauf un, tu sais, puis bon. Mais, en fait, c'était afin que s'accomplisse les Écritures, parce que c'était, c'est celui avec qui je mange a levé le talon contre moi. Mais, c'est Judas lui-même qui a décidé de faire ça. On va en parler plus tard, là. Judas, c'est comme... Et là, ça va finir un peu mal. T'sais, on finit, c'est le dernier dans la gang. Il est tout le temps le dernier dans la liste aussi. Ça le dit souvent, ça dit le traître, celui qui trahit Jésus, qui livrera Jésus. Mais bon. OK. Avant de vous présenter Pierre-Jean-Jacques ce soir, je veux juste dire un petit mot. Pourquoi 12 apôtres? Ah, 12. On va pas faire de la numérologie ce soir, mais il y a 12 tribus d'Israël. OK, des 12 fils d'Abraham, probablement. Bon, on dit pas, on dit qu'il vient de la Galilée, mais bon, ça ne nous donne pas les détails non, qu'il y avait de chaque tribu, ça je ne sais pas. Le chiffre 12, pourquoi? 12, on voit ça justement, les 12 tribus d'Israël. Souvent, c'est par rapport avec ce qui est en ordre, tu sais. 13, c'est le chaos d'habitude, comme les 13 rois dans Genèse. Mais 12, c'est l'ordre, tout ça, mais... Comme dans. Il y a 12 prophètes mineurs. La Nouvelle Jérusalem là, a 12 portes. Puis en tout cas. Mais bon, pourquoi 12? Parce que Dieu a décidé que c'était 12. Tous les détails de ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça serait de la spéculation. Oui.
Mais il me semble qu'il y a une place que ça dit qu'ils vont juger les 12 tribus d'Israël.
Oui.
Ça peut être un rapport aussi.
Oui. Mais en fait, ça dit qu'il y a 24 vieillards. Puis ça. 24 et 1, OK, ben là, 12 reste. Peut-être qu'il y en a 12 pour l'Église aussi, mais là, ils viennent de où, ces 12-là, je sais pas. En tout cas, il y a des affaires que là, des fois, on ne sait pas trop, mais oui, ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Jésus leur a dit ça. Mais dans Apocalypse 4 aussi, on voit qu'il y a 24 vieillards, puis là, ils se prosternent, puis tout ça, puis bon. Hey, une autre question qu'on peut se poser. Paul, étais-tu legit? Paul, il dit, je suis le moindre des apôtres. Étais-tu vraiment un apôtre, puis tout ça? Bon. Paul, il dit, je suis le moindre des apôtres. Sans contredit, est un envoyé du Seigneur. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, là. Et sans contredit, il a payé le prix et tout ça. Mais, vous savez que Apollos et Barnabas sont appelés apôtres. Même Jésus, dans l'hébreu, est appelé apôtre, l'apôtre de notre foi. Bon, ça peut être dans le sens plus large d'envoyé. Donc, là, il y a un certain débat là-dessus. Est-ce que Jésus était un apôtre dans le sens restreint du terme, qui a été avec Jésus pendant... son ministère terrestre, puis qui a été témoin de sa résurrection. Sûrement qu'il a été témoin de sa résurrection, mais c'est peut-être pour ça qu'il dit qu'il est le moindre des apôtres, parce qu'il n'a pas été avec Jésus. En fait, il était contre Jésus du temps. Il était vivant du temps de Jésus, mais il n'était pas avec lui. Il était contre lui. Donc, certains vont dire, ben il n'est pas dans le sens très restreint du terme, mais il est certainement dans le sens qu'il est un envoyé, puis son rôle dans le commencement de l'Église et tout ça. Mais bon, je ne vais pas m'allonger là-dessus. Et une dernière question qu'on peut se poser, pourquoi que les listes d'apôtres dans les évangiles ne sont pas toutes pareilles? Des fois, tu es un peu mêlé, coudonc, y a-tu de la confusion, de la contradiction? Premièrement, c'est parce que il y en a certains qui étaient connus sous plus qu'un nom. Okay? Comme Jude et Thaddée, ici on a Thaddée, c'est Jude dans une autre liste, c'est le même gars. Okay? Il y avait des surnoms. Tu sais, ben Simon nommé Pierre, ben Jude qui était super commun. OK, Jude, dans le judaïsme, c'est très commun. Mais pour le reconnaître, il l'appelait Thaddée. Tant que c'était fils de Thaddée, pourquoi Thaddée, je ne sais pas trop, là. Puis même des fois, comme Jean, lui, des fois, il est bien sélectif dans comment il va faire ses listes d'apôtres. Il met par ordre d'importance, des fois, il met un là, puis là, puis là. Ben, c'est pour ça que les différences ne sont pas toutes identiques, OK? Bon, je vous parle de Pierre. Notre fameux Pierre, son nom. OK, Simon-Pierre. Simon, ça vient... ça veut dire entendre. Le nom Pierre, ça veut dire roc. C'est du grec, mais ça vient originellement de l'araméen. Il fait partie du cercle intime. On dit Pierre-Jean-Jacques. OK? Et donc, lui et ces deux autres-là sont les seuls qui ont été témoins, qui étaient présents lors de la résurrection de la fils de Jairus, le chef de la synagogue, la transfiguration et de l'agonie dans le jardin. Okay? Il y avait une place vraiment intime auprès de Jésus. Et Pierre, on le connaît, il est connu pour avoir la grande bouche puis le pied qui fit pour aller avec. OK? J'ai regardé hier Andy Griffith. Si vous voulez quelque chose de très intelligent et d'intellectuel, si vous voulez faire vos Galiléens, là, Andy Griffith, il dit, il monte comme ça son pied à Barney, puis il dit, Barney, peux-tu me dire comment un gros pied de même peut tout le pied rentrer dans une bouche comme la mienne? Il avait mis son pied dans la bouche, en tout cas. Pierre était bon là-dedans. Il se mettait le pied dans la bouche. Mais c'était le porte-parole. Souvent, il disait tout haut ce que les autres n'osaient même pas dire. Pour ça aussi, il avait de l'air fou, parce que lui, il le disait, les autres n'osaient pas le dire. Ça, c'était Pierre, OK? Mais Pierre a marché sur les eaux. Hein? C'était quelqu'un de spécial. Il a aussi renié Jésus. Tu sais, Pierre, c'était tout ou rien. Il n'y avait pas de demi-mesure ben avec Pierre, OK? C'est lui qui a prêché à la Pentecôte, puis il n'était pas gêné, là. Il dit, vous avez crucifié celui que Jésus, que Dieu a fait, Christ et Seigneur. Wow, mes amis! C'est lui qui a ouvert la porte aux païens, OK? Jésus l'avait prophétisé, hein? Il dit, ce que tu vas lier va être lié, délié va être délié. Puis on le voit là, dans Acte 10, hein, quand... là, l'église à Jérusalem est persécutée. Donc là, tu sais, Dieu, il dit, sortez de Jérusalem, là. Je vous ai envoyé. Fait que là, il commence à aller en Judée, puis en Samarie. Et là, les païens commencent à croire, à accepter le Seigneur. Et Pierre va, Pierre avec Jean, il va et vraiment, celui, c'est pas lui qui l'a ouvert, c'est Dieu, mais dans le sens que c'est lui qui l'a confirmé. OK? Oui, vraiment, les païens, on reconnaît, ils font partie du plan. C'est plus le judaïsme comme avant, on est rentré dans l'ère de l'Église comme Jésus l'avait annoncé. Pierre a été un élément là-dedans pour confirmer ça, comme Jésus lui avait dit. On sait aussi que Pierre est le fils de Jonas, pas le prophète Jonas, les amis, vous allez peut-être mêlés. Wow, il était vieux son père, non, c'est pas le même, là, c'est un nom commun ça aussi. Et il est né à Bethsaïda, mais il vivait à Capernaum, puis il avait une famille, parce qu'on sait que Jésus a guéri sa femme. Et probablement que c'était le plus vieux. Ça, on ne sait pas, mais étant leader, c'était peut-être lui, c'était peut-être l'aîné de la gang des apôtres. Okay? On sait aussi, il a écrit, hein, 1 Pierre et 2 Pierre, et beaucoup disent qu'il est la source de Marc. C'est pour ça que Marc est dur avec Pierre. Parce qu'on voit souvent, on dit, coudonc, il ne présente pas son meilleur jour, bien probablement parce que Pierre est la source. C'est pas lui qui l'a écrit, mais la source. On comprend, c'est le Saint-Esprit, là, mais humainement parlant, là, tout ça, c'est dirigé par le Saint-Esprit, mais Pierre aurait été celui à la source pour ça. C'est pour ça que même dans son humilité, il ne voulait pas se vanter, il montre même ses mauvais côtés. Mais bon. C'est ce que des étudiants des écritures historiques disent, mais là, c'est ça. Alors, on ne peut pas le savoir avec certitude. Pierre aussi, on sait, il était un pêcheur d'expérience. Il travaillait, il avait une business là, avec les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et dans Galates 2:9, ça nous dit qu'il était l'un des piliers de l'Église à Jérusalem. Donc, lui, il est pas mal resté à Jérusalem. Oui, il a voyagé un peu au début, pis ça, mais il est pas mal resté là. Pas comme Paul, puis Silas, Barnabas, ça, qui ont vraiment ils ont fait le tour beaucoup plus de l'Empire romain. Il serait mort, on sait qu'il est mort à l'envers, à sa propre demande, crucifié à l'envers, à sa propre demande, parce qu'il dit « Je suis pas digne de mourir comme mon Seigneur. » Il a demandé d'être crucifié à l'envers. Environ en 64 après Jésus-Christ. Son tempérament, impétueux, confiant, surconfiant peut-être même des fois, mais courageux et franc, impulsif, très énergique et fort, aimant et fidèle. Il a sorti l'épée parce qu'il avait dit « Je suis prêt à mourir pour toi », mais il était prêt à mourir avec Jésus. Okay? Donc, il était aimant et fidèle à son maître, malgré, bon, il y avait peut-être un peu des côtés rough, assemblés ou même à planer, là, besoin étant. Si vous avez un caractère comme un Pierre, vous êtes du genre prophète, vous êtes du genre noir ou blanc. Mais vous êtes aussi du genre à ne pas vous mettre juste le petit orteil d'un plat, c'est les deux pieds complètement dans l'assiette au complet. Tu sais, c'est tout ou rien. OK? Évidemment, vous êtes du genre à parler avant d'agir, parler avant de penser, à faire bien des affaires avant, dans le mauvais ordre. OK? C'est le côté passionné. Moi, je pense que j'ai un petit côté de même. Ma femme me regarde et elle rit. Tout à fait vrai. Okay? Mais en même temps, les Pierres, ce n'est pas des gens qui font semblant. Je veux dire, what you see is what you get. Okay? Puis, des fois, ben, ça nous fait prendre ben des tours, par exemple, parce qu'au lieu d'y aller de la manière facile, puis tout ça, ben là, tu te plantes, puis tu te replantes. Un peu comme toi avec ton. C'est comme spirituellement, tu te retrouves avec un micro-ondes dans les mains, puis tu t'en fâches pas à peu près. T'sais, ça, c'est les Pierres, ça fait ça de même pas mal. OK? Mais ça l'a fait un excellent leader qui a tracé le chemin devant. Pourquoi? Parce que il était entier. Il était. Tu sais, puis même lui-même, il voyait qu'il n'était pas digne. Puis on sait que Jésus l'a relevé à la fin hein, de l'évangile de Jean. On voit comment il demande est-ce que tu m'aimes plus que celui-ci parce qu'il s'était vanté, tatata. Puis là, il voit, non, il se rend bien compte humblement qu'il n'était pas ce qu'il pensait être. Mais Dieu l'utilise quand même pour être le leader des apôtres. Maintenant, Jacques, l'un des deux fils de Zébédée, probablement l'aîné des deux, c'était si Pierre, on pouvait le qualifier en un mot comme l'impulsif, Jacques, on pourrait l'appeler le fanatique. C'est un des fils de tonnerre. C'est un de ses surnoms qui a été donné. C'est le frère de Jean, lui aussi dans le cercle intime. Certains passages, je peux l'appeler comme Jacques le majeur, comparé à Jacques le mineur. Okay? C'est pas le fils d'Alphée, c'est l'autre. Okay? Parce qu'il y avait des noms tellement communs dans le judaïsme. Il y a des Marie partout, des Jacques partout, des Jude, des, tu sais, bon, des Jean. Puis Jean-Baptiste, Jean l'apôtre. Okay? Donc, c'est ça. Pour les démêler, des fois, ils lui donnaient d'autres noms, des qualificatifs. Il est connu pour, bon, avoir été auprès de Jésus pour demander de faire tomber le feu du ciel sur ceux qui ne les avaient pas, lui et son frère. Et bon, fait non, tomber le feu du ciel sur eux autres parce qu'ils ne nous reçoivent pas. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous anime. C'est pour ça que je dis, il était plutôt, hey, ils ont pas reçu, peux-tu t'envoyer le tonnerre et te détruire? C'est quand même extrême quand tu penses à ça. Lui, il avait une chicane avec sa femme, là, mais il savait plus que claquer à la porte, je pense. En tout cas. Lui aussi est reconnu comme un pilier de l'Église dans Galates 2.9. Il a été tué par Hérode. Lui, on sait, c'est le seul du Nouveau Testament, dans les apôtres, qu'on sait comment il a été tué. C'est lui, dans Acte 12, on apprend qu'il est tué par Hérode. Probablement coupé à la tête, OK? Décapité. Donc, c'est le seul récit biblique de la mort d'un apôtre. Son tempérament, rude, plutôt, c'est ça, un tempérament fort, recherchait de la prééminence, hein? Ah, c'est qui va être à la droite, puis tout ça, puis bon, à ta droite. Mais il y avait une relation proche avec Jésus. Et savez-vous quoi? Les trois, là, Pierre, Jean-Jacques, qui étaient tous des leaders, étaient reconnus comme des piliers dans l'Église, c'était les plus proches, parce que justement, c'était peut-être Jésus qui en avait le plus le besoin. Tu sais, c'est pas parce qu'il était meilleur, c'était justement parce qu'il avait plus de misère, il avait besoin d'être plus proche du Seigneur. Mais c'est ça, il y avait une relation proche avec le Seigneur. Si vous êtes du genre d'avoir un tempérament un peu comme à la Jacques, qui avait beaucoup d'énergie, de la passion, c'est bon, Dieu peut l'utiliser pour diriger, mais il faut que ça soit sous le contrôle du Seigneur. OK? Il faut que ça soit calmé par le Seigneur. OK? Donc, c'est ça sur Jacques. On le connaît pas autant que les autres, mais on le connaît quand même un peu. Donc, Pierre, Jacques et maintenant Jean. Bonsoir. Jean, on peut dire, si Pierre est l'impulsif, si Jacques est le fanatique, on peut dire que Jean est le passionné. Comment qu'on l'appelle? OK, Jean, on sait que c'est Jean, ben, c'est un des gens, mais comment que lui-même s'appelle dans son épître? Le disciple que Jésus aimait. OK? C'était le plus près de Jésus. Je crois que c'était aussi le plus jeune. En tout cas, il était plus jeune que Pierre. Moi, je pense, mais il n'y a pas de preuve là-dessus, je pense que Pierre était le plus vieux, Jean était le plus jeune. Pourquoi? C'est le dernier à mourir. Quand il courait, on va dire, ça peut être un détail, mais quand il courait vers le tombeau, moi, je pense que Pierre, là, était bien motivé de voir qu'il y avait dans le tombeau, mais il était plus vieux, il courait moins vite que Jean. La Bible nous dit que Jean s'est rendu en premier, OK? Parce qu'il devait être plus jeune, puis tout ça, puis peut-être que Pierre s'enfargeait dans sa toge, ou je sais pas trop, là. Mais Jean, il a décampé, il est arrivé en premier. Bon, mais encore là, ça, c'est, on n'a pas directement la Bible qui nous le dit, mais bon. Et Jean aussi était connu pour son tempérament explosif, ses discours explosifs, son ambition. C'est ça, à demander que le feu tombe du ciel, à demander d'être à la droite de Dieu. Mais aussi, comment qu'on l'appelle? Oui, j'ai le disciple que Jésus aimait, mais en dehors de la Bible, on l'appelle l'apôtre de l'amour. Hein? Parce que c'est lui qui a écrit l'Évangile de Jean. Ah, c'est le deuxième plus grand auteur du Nouveau Testament, après Paul. OK? Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament, pratiquement, là. Mais Jean a écrit l'Évangile de Jean, 1, 2, 3 Jean. C'est quoi le dernier? L'Apocalypse. L'Apocalypse de Jean. OK? Donc, c'est un écrivain majeur de la Bible. C'est aussi... j'ai perdu ma ligne, j'étais rendu où? C'est lui qui a pris soin de la mère de Jésus, on apprend ça, à la crucifixion. Jésus, voici ta mère, puis bon, parce que probablement, autant la crucifixion de Jésus, Joseph, le père terrestre de Jésus, était décédé, donc étant devenue veuve, elle a besoin, on sait dans la Bible, le contexte des veuves, c'était des personnes très vulnérables, il n'y avait pas de sécurité sociale, comme nous, on l'a par le gouvernement, c'était... L'Église, c'était le tissu socialement qui s'en occupait. Donc, Jésus l'a confié aux soins de Jean, ce qui nous donne sur son caractère et comment il est. Puis aussi, peut-être, sa jeunesse, parce que clairement, Pierre, qui avait une famille, puis tout ça, puis il était plus vieux, c'était peut-être plus dur pour lui de prendre quelqu'un de main, tandis que Jean était peut-être plus au début de sa vie, c'était plus possible. On ne sait pas s'il était marié ou tout ça, mais bon. C'est le dernier à être mort en 90, après Jésus-Christ. Lui aussi est nommé un des piliers de l'Église. C'est ça, je l'ai déjà dit, excusez, avec ce qu'il a écrit, c'est lui le deuxième plus grand écrivain du Nouveau Testament. Selon la tradition, il serait mort de sa belle mort. OK? Mais malgré le fait, écoutez bien, il y a eu un méchant miracle dans sa vie. Bon, on sait que il a écrit Apocalypse quand il a été exilé sur l'île de Patmos. C'était une île prison, un peu comme l'Australie était dans le temps, puis on se demande si ça va le devenir encore, là, mais bon. C'est une île prison, il a été envoyé là, mais ils ont essayé de le tuer en le plongeant dans l'eau bouillante. Sans passant, essayez pas ça à la maison avec votre friteuse, OK? Même pas votre petit doigt. L'huile, si on met notre doigt dans l'eau chaude, ouh, on sort ça, on a, tu sais, bon, ça peut rougir, mais l'huile, ça... Si on met notre doigt dans l'huile, l'huile continue à nous brûler après qu'on l'enlève. C'est pour ça qu'en prison, une des choses les pires, une des attaques qu'ils font, ils mettent de l'huile dans le micro-ondes, puis, tu sais, parce qu'il y a des vengeurs, puis, tout ça, puis ils tirent de l'huile en face de quelqu'un. Fait que là, tu sais, ça te défigure, parce que l'huile continue à te brûler. Tu sais, puis si tu mets de l'eau, c'est pire. Ah, c'est cruel, en tout cas. Lui, il a été plongé au complet. Puis il a survécu, c'est un miracle du Seigneur, un peu comme Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu n'a pas permis que ça le tue, peut-être même que sa peau est restée saine, tu sais. Il aurait dû mourir de ça, je veux dire, c'était brûlure sur le corps, après 3 degrés, ça va plus. Tu sais, il aurait été plein de cloches partout, tu sais, tu peux pas survivre à ça, le sang de bouille, tu sais, je veux dire. Fait que, il a survécu à ça, puis il est mort de sa belle mort. Monsieur Fox Books of Martyrs, John Fox, dit que c'est arrivé sous Domitien, l'empereur, le dictateur romain qui a voulu le brûler comme ça, mais il l'a relâché. Puis c'est ça, il serait allé en 97 à Éphèse où il serait mort. Mais encore là, c'est ça, tu peux... On sait qu'il était sur l'île de Patmos, ça dit dans la Bible, mais il serait mort, mais en tout cas. Vous regarderez par vous-même, c'est ça. Quand on regarde la vie des apôtres, il y a des affaires qu'il faut qu'on soit, on prenne en dehors de la Bible. Fait que là, tu sais, c'est pas aussi autoritaire que si on l'avait tout dans la Bible. Son tempérament. Oh, il y avait le feu. Il y avait le zèle. OK? De la jeunesse. Je crois qu'il était vraiment le jeune zélé, un peu qui avait besoin de se faire un peu calmer les ardeurs des fois. Qui avait tendance à être intolérant, puis à exclure, hein? Tu sais, c'est ça. Oh, plus qu'exclure, là, vouloir de faire descendre le feu, mais bon, mettons que c'est une version extrême de l'exclusion. Mais sa disposition passionnée comme ça était sous la garde de la réprimande de Jésus. Jésus l'a souvent repris, puis il a dit, puis ça le gardait non seulement sous contrôle, mais prêt à être utilisé, prêt à être utile à l'œuvre de Dieu. L'amour vrai et fort, ça nous démontre dans la vie de Jean, est passionné. La passion, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste quelque chose qu'il faut qu'il soit sous contrôle. Mais c'est un feu, c'est bon. Et Jean, qui est l'apôtre de l'amour, avait cette passion. OK? Et donc, tu sais, puis des fois, on le voit plus comme un calme et tout ça. Probablement qu'il y avait des relations privilégiées avec certains gens du leadership d'Israël parce que lui a pu aller au trial, au procès de Jésus. Il a pu rentrer. Tu sais, Pierre était dehors, il l'a reconnu, il a renié. Mais Jean était là, lui, qu'est-ce qu'il faisait là? Ben, peut-être qu'il y avait des connexions, puis tout ça. Puis justement, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, ben, peut-être que sa famille était un peu plus aisée, les fils de Zébédée, qu'il y avait, parce que, tu sais, les connexions sociales, c'était avec le monde religieux, le monde financier, là. Tu sais, si tes parents étaient riches, il y avait des liens avec des gens riches, mais aussi avec les gens. Fait que peut-être que dans la famille, peut-être que d'après leur lignée, peut-être qu'il y avait des... Un mononcle, on dit des fois, il y en a un qui était prêtre dans la famille, ben, il y en a peut-être un qui était un peu... Tu sais, tribu de Lévi ou peu importe, là, comprenez-vous? Il a été utilisé par le Seigneur comme il était, avec la passion qu'il avait, parce qu'il a laissé être sous le contrôle de Dieu. Donc, pour conclure ce soir, on a vu le cercle intime de Jésus. J'aimerais qu'on retienne ceci. Okay? On a quand même parlé, bon, des apôtres en général, puis tout ça. La semaine prochaine, on va voir, là, on a vu 3 sur 12, fait qu'on va voir les 9 autres, vous allez voir, il y a beaucoup de leçons à voir sur comment ils sont, comment Dieu utilise du monde de la même nature que nous, des fois, quand même, le même tempérament que nous autres. Mais, 2 choses que je veux qu'on retienne par rapport à ce qu'on a vu ce soir sur les 3 premiers apôtres. C'est pas parce qu'ils étaient... Tu sais, des fois, on les voit, ah, oh, wow, il y a quelque chose de spécial. En fait, c'était peut-être les pires de la gang. Dans le sens que, tu sais, il y en a un qui était, ah, oh, il n'arrêtait pas de parler tout le temps, puis se mettre le pied dans la bouche, puis ça, puis les 2 autres, ils voulaient être les premiers, puis quand il y avait les pains en avant, c'était les premiers à essayer de mettre la main dans le plat. Tu sais, je sais pas trop, mais c'est pas parce qu'il était donc poli, puis tout parfait, mais. D'après ce que Dieu faisait dans leur vie, ils ont mis dans une position où est-ce qu'ils voulaient raffiner ça pour l'utiliser pour lui. Donc, il y avait les côtés pas mal rough, mais Dieu les a utilisés. Il a pris ce matériel brut pour faire de quoi pour lui. OK? On retient ça, c'est parce que c'était des gens qui avaient des caractères. Puis d'ailleurs, c'était des gars rough, là. Les pêcheurs là-bas, c'était pas avec la petite canne à pêche comme dans les films, puis là, 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 puis ils s'y flottaient, là. Mais non, c'était des hommes, puis des gros filets, puis, tu sais, puis c'était des horaires durs, là, tu sais. Ils se levaient le matin tôt, puis des fois, ils m'ont dit, on passait la nuit pour aller à la pêche, puis, tu sais, c'était des men's men, là. C'était pas des feluettes, là. Des fois, ils pensent que les gens, ils gambadaient dans les champs avec Jésus. Tu sais, des fois, on a une version très féminisée de Jésus. Non, non, c'était rough, là. Puis, quand on dit « suis-moi », ils ont tout laissé. Excuse, mais c'était comme... C'était un méchant pas de la foi, là, tu sais. Ils laissaient leur business, là. Puis, on suit, OK? Donc, il y avait tout ce côté-là, mais il avait besoin d'être proche de Jésus. Parce que, justement... Jésus les a utilisés, il a fait d'eux autres des leaders de la compagnie apostolique, mais il avait besoin d'être proche de lui pour être utilisable de même. des gens avec des tempéraments comme ça, plus forts, plus, tu sais, on va voir une autre qui était beaucoup plus calme, beaucoup, tu sais, un Nathanaël qui était tellement calme et tout ça, ou l'autre sous le genêt puis tout ça. On voit une autre qui avait des tempéraments beaucoup plus doux puis effacés. Okay? Ou même un Pierre qui était dans l'ombre de son frère, pas un Pierre, mais André qui était dans l'ombre de son frère Pierre. Mais c'est pour ça que les autres avaient besoin. Fait que, tu sais, si vous avez ce genre de tempérament-là, pas mal plus, tu sais, fort, puis tout ça, vous avez besoin d'être plus proche du Seigneur, parce qu'il y a plus de roughness à déroffer. Oh, mais amis, là, on a perdu. Là, j'ai passé au-dessus du banc des Bastiens, puis j'étais arrivé, j'ai atterri sur Donald en arrière. Là, c'est du québécois que j'ai dit là. Mais il y a beaucoup de rudesse qui a besoin d'être adoucie. C'est mieux de même, là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, n'est-ce pas merveilleux que Dieu prend non seulement du matériel brut de même, mais du matériel bien ordinaire, pour mettre ça dans le domaine de la seconde. Il a pas été prendre du gros... Tu sais, il est allé chez Kanak, puis il a pris des 2x4. C'est très commun. Il n'a pas été là, dans un magasin raffiné puis prendre du bois d'acacia. Puis... Non, non. Il a pris des 2x4 puis il a dit, on bâtit mon œuvre demain. C'est un charpentier. Là. Bon, OK, les enfants, il n'est pas allé chez Kanak. Là. Il n'y avait pas de Kanak à Jérusalem. Il n'était pas encore ouvert. Mais je veux juste qu'on voit avec ça, Dieu se glorifie de même. Il prend... non seulement des caractères bruts de même puis les raffine, mais aussi il prend du ordinaire puis il fait quelque chose d'extraordinaire avec. OK? Je veux qu'on retienne ça. Ces gens-là, c'est des gens de la même nature que nous, mais ils ont été en relation avec le Dieu de l'extraordinaire, le Dieu de la grâce, le Dieu de l'impossible. Il a pris du monde de même, d'une région méprisée, puis il les a utilisés, puis pas juste eux autres, là, mais ils ont été centrales dans son plan pour influencer tout le monde, pour christianiser le monde païen de l'époque, puis on a encore aujourd'hui, à notre époque, l'influence de ça. Pas parce que, puis justement, Dieu s'assurait, c'était pas à cause d'eux autres, il était bien ordinaire, mais il était, c'est quoi les qualificatifs que j'ai pris? Il était simplement disponible, flexible, enseignable et fiable. C'est du genre de monde de même que Dieu utilise. Amen! On te remercie, Seigneur, qu'on a pu considérer faire une intrusion dans la vie de ces premiers apôtres qu'on considère et qu'on va continuer la semaine prochaine. Seigneur, merci que tu es ce Dieu qui est extraordinaire, qui est au-dessus de tout et que tu aimes te glorifier dans des gens ordinaires. Et même, Seigneur, tu prends des gens qui, des fois, qui ont des gros défauts, des affaires bien apparentes, qu'on dit « Mon ami, ça fait dur ». Mais Seigneur, tu aimes aussi à te glorifier en rendant beau, en montrant la beauté de ton œuvre dans des gens comme ça, du matériel brut de même. T'en fais une sculpture, une œuvre qui montre ton habileté, ta grâce, ta bonté. Seigneur, merci qu'on peut s'identifier à ces personnes, qu'on peut s'identifier à toi qui nous utilise comme ça aussi. Et Seigneur, on veut te louer que tu es ce Dieu des gens ordinaires. C'est ce Dieu qui est venu près de nous, qui a été patient, qui a été doux, qui a été enseignable, qui a été aussi, qui a repris, qui a été celui qui n'a pas laissé les choses qui ne devaient pas être changées, qui a fait face à ça. On te remercie, Seigneur, que tu es encore le même aujourd'hui. Qu'on apprenne à marcher comme ça avec toi, à se confier en toi et... Seigneur, on te remercie que tout ça, on l'a en Jésus-Christ. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Avez-vous un préféré que vous aimeriez qu'on chante?